Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
Merci Cindy d'avoir accepté de faire ce live. Comme toujours, avant de le commencer, je vais te demander de te présenter s'il te plaît.
Bien sûr. Donc, je m'appelle Cindy Kerasso-Hersen. Je suis psychopraticienne spécialisée en relations d'aide et je propose donc des thérapies ou individuelles ou de couple ou en famille, soit à mon cabinet qui se situe au Chesnay dans les Yvelines à côté de Versailles, à côté de Paris, ou sinon en visio, évidemment. Voilà.
Super, merci Cindy. Alors on va commencer directement dans le sujet, donc la tristesse, comment la gérer? Alors d'abord Cindy, la tristesse c'est quoi et comment l'identifier?
En fait, la tristesse, bon, évidemment, c'est une émotion qui est ressentie comme douloureuse parce qu'elle est associée au chagrin. Et évidemment, le chagrin, c'est lié souvent à la perte, donc perte de quelqu'un ou perte de quelque chose. Et évidemment, en fonction du sujet, c'est plus ou moins douloureux. Et c'est une émotion qui amène très souvent le repli sur soi. C'est ça qui est le plus dangereux, en fait, dans cette émotion-là particulièrement. Parce qu'on a tendance à pas oser évacuer cette tristesse comme on pourrait le faire, et donc du coup on la ravale et on se renferme. Donc après on peut vraiment avoir une problématique pour oser sortir, parler tout simplement. Et cette tristesse, généralement, elle sort par les pleurs, mais qui sont pas si simples à sortir pour certaines personnes. Ça évoque beaucoup de croyances derrière, on en reparlera. Donc voilà, c'est principalement par les pleurs, par la perte de l'appétit. Souvent, on peut se rendre compte qu'une personne est profondément triste, par une perte de vitalité, en fait, en général. On se rend compte qu'elle est triste. Et en tout cas, ce qui est important de se dire, c'est que le chagrin qui est lié à la tristesse est nécessaire et indispensable pour évacuer cette tristesse. Et c'est, même si on sait que tout le monde connaît, en gros, la tristesse et tout le monde passe par cette émotion, mais pas forcément tout le monde s'autorise à bien l'entendre, bien la recevoir et savoir s'en libérer. Donc le chagrin est nécessaire pour après prendre du recul et passer à l'étape de l'acceptation en fonction du sujet.
C'est vrai, c'est bien de le rappeler. Merci Cindy. Alors pourquoi les gens ils sont malheureux?
Alors les gens ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'ils pensent très souvent à ce qu'ils n'ont pas. Ils sont vraiment, et encore plus aujourd'hui, on est dans une société où on nourrit énormément la frustration et on pense toujours à « j'aurais préféré être ailleurs avec quelqu'un d'autre » ou faire autre chose. Donc on pense beaucoup à ses rêves, en fait, à une chose un petit peu fantasmée. C'est pour ça qu'on a cette expression que tout le monde connaît de voir le verre à moitié vide. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on se concentre sur ce qu'on n'a pas encore, sur ce qu'on pourrait avoir de mieux et on est, du coup on nourrit le malheur, ça c'est sûr, et donc c'est évidemment très important de penser à ce qu'on a, parce que même s'il nous manque des choses et qui peuvent être très légitimes, on a forcément quelque chose, on a forcément des choses, ça c'est sûr, et on n'est pas naturellement formaté à les apprécier. C'est pour ça qu'il y a des exercices et un peu des mises à jour à se faire pour vraiment y repenser. Donc voilà, le malheur est principalement lié à ça, et cette époque encore plus à cause des réseaux sociaux principalement. Donc évidemment les réseaux c'est aussi très important, tu vois, là on fait un live, ça permet à plein de monde d'entendre certains sujets, de s'enrichir, de créer un lien et d'en savoir, donc ça c'est super. Le problème par contre qu'il y a, et beaucoup les ados et les jeunes adultes, c'est qu'ils vont se confronter beaucoup trop aux réseaux sociaux, mais surtout à suivre des gens qui leur nourrissent cette frustration, qui nourrissent cette souffrance, c'est-à-dire la personne, elle, a ça, peut-être en niveau social, en argent, en voyage, en beauté, en n'importe quoi, et moi, je ne l'ai pas. Donc, forcément, je cultive ce malheur à travers les autres. Et on nourrit un manque, on se construit un manque que peut-être qu'on n'avait pas remarqué, qu'on ne ressentait pas, et qu'on va nourrir et développer parce qu'on voit ce que les autres ont. En plus, en sachant que les gens qui montrent ça sur les réseaux, ils montrent que le verre à moitié plein, forcément. C'est-à-dire que quand on va sur les réseaux, on a envie de faire rêver les autres, on a envie d'être aimé, on a envie de... Voilà, donc forcément, on va aller montrer les choses qui vont bien, et très peu de personnes vont montrer quand ça va mal ou quand ils sont à leur désavantage. Donc forcément, ça nourrit vraiment, vraiment ce malheur. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention, et souvent je dis... Surtout à ma patientèle ado, jeune adulte, qui se construisent, en fait. Évidemment, c'est dans l'air du temps, même nous, on n'y échappe pas, donc c'est pas une question de plus être sur les réseaux. Par contre, faire hyper attention et s'autoriser à arrêter de suivre des personnes qui nous font souffrir. Voilà. C'est pas que les personnes sont des mauvaises personnes, hein, mais que leur image ou ce qu'elles renvoient nous font souffrir. Et donc, suivre des gens, soit qu'on aime personnellement, c'est nos amis, les gens de notre famille ou quoi, ou des gens qui nous inspirent, qui nous font du bien par des pensées, par des paysages ou n'importe quoi, mais vraiment, quand on voit, ça nous galvanise. Si ça nous renvoie à « et moi, j'ai pas de chance, et moi, je suis nulle, et moi, je suis grosse, et moi, je suis… » voilà, il faut s'autoriser à couper. Ça, vraiment, j'insiste, et je profite de ce live pour le dire, parce que autant je vois des parents désespérés avec leurs ados, autant j'ai des ados aussi qui sont mal, et peut-être que ça paraît évident, mais franchement, on ne s'autorise pas à arrêter de suivre une personne qui nous fait du mal.
Voilà. Ah oui, j'imagine que c'est un peu le mal du siècle, finalement, ouais. Pour les ados surtout, donc j'imagine.
Mais, oui, parce que c'est vrai qu'on est en construction, donc forcément, à partir de là, on n'est quand même pas ancré, on n'est pas solide. Et puis, ils vivent à travers ça, nous, on s'est construit sans ça. Donc, c'est un plus dans notre vie qu'on prend plus ou moins en fonction de ce qu'on souhaite, mais ce n'est pas pareil. Et il ne faut pas oublier que, voilà, qu'eux, ils ne sont pas du tout le même recul que nous là-dessus. Déjà, même les adultes, hein, ils peuvent vraiment développer de la tristesse et du malheur à cause des réseaux, mais alors encore plus les ados. Donc voilà, c'est un message que je tenais vraiment à faire passer aujourd'hui. Ce ne sont pas les personnes qu'on suit qui sont forcément malveillantes ou méchantes, mais si ces personnes nous procurent cette émotion-là, il faut s'autoriser à s'en libérer et couper. Voilà, c'est comme ça, on n'est pas tous aptes à percevoir et voir les choses de la même manière. On a nos limites en fonction de notre étape, nos vies. Si à un moment, on est en frustration, en professionnel et qu'on voit que des gens qui font le métier qu'on rêve et ils sont hyper heureux, bon, bah, par moment, ça peut être un petit peu décourageant. Donc, il faut aussi se dire, bon, bah, là, je laisse ça un temps et je reviendrai plus tard. Pareil, si on rêve de voyager, qu'on ne peut pas se le permettre et qu'on voit que des choses avec des gens qui font des trucs sublimes toute l'année. Voilà. Donc, tant que ça nous fait du bien, eh ben, c'est top. Si ça nous fait souffrir, on arrête. Voilà. Ça, c'est un message que je voulais faire passer aujourd'hui.
Super intéressant. Et du coup, c'est vrai qu'on avait un témoignage de Diane qui nous a dit « Moi, je vois des femmes enceintes partout sur les réseaux. Ça me complexe trop, je vais arrêter de les suivre. »
Et ouais, en plus, avec les algorithmes, c'est ça qui est hyper pervers. C'est que plus on regarde un truc, plus on nous met en plus des gens ou des choses en fonction de ça. Et donc, on s'en prend plein la figure, on s'en rend même pas compte. Donc ça, c'est hyper important, c'est vrai. Des personnes qui ont une problématique à tomber enceinte, et si elles voient ça toute la journée, toutes les thématiques de femmes enceintes, épanouies ou non, mais quoi qu'il arrive là-dessus, c'est compliqué. Donc, il faut jouer dans notre camp. En fonction de nos problèmes ou de notre sensibilité du moment, eh ben, on va pas aller nourrir ça. Voilà, on a le droit d'être triste, mais on va pas en plus la développer à travers la vie des autres. C'est pas possible. Ça, c'est, il faut vraiment s'autoriser à couper ça, parce que vraiment, moi, je trouve que le seuil de dépression et de repli sur soi et surtout de frustration a énormément évolué en 10 ans à cause de ça. Ça, c'est sûr. Je vois vraiment la différence. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important de se le dire. Et il y en a pour tout le monde sur les réseaux, mais voilà, il faut s'écouter. Donc, à méditer.
Merci Cindy. C'est intéressant d'en parler. Alors, est-ce que tu peux me dire, Cindy, quelles sont les causes principales de la tristesse ?
Alors, les causes principales, c'est vraiment tout ce qui fait partie de la famille du deuil. Donc, le deuil au sens propre, c'est-à-dire perdre quelqu'un. Et là, on est dans la tristesse la plus profonde sur ce thème-là, évidemment, qui va s'atténuer avec le temps, avec l'acceptation, avec le travail des étapes du deuil. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, il n'y a pas un plan à suivre, une deadline ou quoi. Mais bon, là, on est vraiment voilà, sur ce deuil qui ramène une tristesse intense, profonde qu'on ressent. Alors, on a des outils en thérapie pour le travailler. Mais évidemment, voilà, il y a aussi l'acceptation de l'espace-temps qui joue un rôle important. Et après, il y a le deuil dans toutes les autres sphères, quoi. Ça veut dire qu'on a le deuil si on change de travail, avec la mélancolie des bons moments, avec les autres collègues qui étaient devenus des amis, ou avec les repères qu'on avait qui étaient agréables. On peut avoir aussi le deuil de changement de vie, d'habitation. Pareil avec j'aimais bien tel commerçant, j'aimais bien tel truc à tel endroit, et voilà. Avec aussi la tristesse aussi. Pourquoi ? Parce que avec la tristesse, on peut avoir évidemment les autres émotions, d'où la peur de l'inconnu, la peur d'après. Est-ce que ça va, je vais pas regretter, est-ce que ça va pas être pire ? Donc voilà, tout changement peut amener à de la tristesse. Même le changement justement d'avoir un enfant, avec ce baby blues, hein, que maintenant on en parle de plus en plus, mais il y a un temps on n'en parlait pas, c'était honteux. C'est-à-dire qu'on est heureux, enfin on a notre enfant, on l'a attendu, et pourtant, alors il y a le côté hormonal, hein, ça c'est sûr, mais il y a aussi vraiment ce changement qui amène à cette tristesse où on en pleure. Et c'est vrai que beaucoup de femmes viennent me disent, je ne peux pas m'autoriser à pleurer, je l'ai voulu, il y a des femmes qui ne peuvent pas en avoir, et moi je suis là à pleurer. Oui, mais encore une fois, il faut accepter. il y a ce bouleversement hormonal, mais c'est un bouleversement dans sa vie avec des nouvelles peurs aussi, de projection. Est-ce que je vais faire assez bien? Est-ce que je vais être une bonne maman? Est-ce que voilà? Et donc, tout ça amène une tristesse, une souffrance. Donc, ça, c'est voilà, aussi important de se dire. Et puis, il y a aussi dans la tristesse, la déception ou de quelqu'un ou de soi-même même. Même, je pensais être capable de faire ça et je suis profondément triste de voir que je ne suis pas capable, que j'ose pas ou que j'y arrive pas. Ou de quelqu'un voilà, qui s'est mal comporté, qui ne nous a pas rappelé, qui n'a pas tenu sa promesse ou quoi. Et on peut vraiment ressentir une vraie tristesse. Donc ça, c'est principalement les choses qui amènent à la tristesse. Donc, principalement, le deuil dans le sens large.
D'accord. Merci, Cindy. Alors, c'est intéressant parce que la prochaine question, elle n'arrête pas d'être posée.
Ah,
quand
c'est quoi ?
Tu me dis comment ne pas confondre tristesse et dépression ?
Ah.
On a une autre personne, oui, qui nous dit tristesse et dépression, quelle différence, de Pauline. Alors, justement, Cindy, est-ce que tu peux nous aiguiller là-dessus et nous dire quelle est la différence entre la tristesse et la dépression ?
Et c'est bien important d'en parler. La tristesse, c'est une émotion, évidemment, qui fait partie des quatre émotions primaires, principalement. Les quatre, c'est peur, colère, joie, tristesse. Donc, c'est une émotion et on peut être triste et trois heures après, quelque chose qui nous fasse rire, on rigole et puis après, un truc qui nous met en colère et puis on repart dans notre tristesse et voilà. Donc, ça peut fluctuer, ça bouge. Et c'est sur un événement, quelque chose, un fait précis. Voilà, la perte de quelqu'un ou la perte sentimentale ou amicale, donc le deuil, voilà, comme je disais, dans le sens large, la perte de quelque chose ou de quelqu'un, mais on a des moments où ça bouge. Par contre, la dépression, c'est complètement autre chose. La dépression, c'est un état. Et déjà, c'est hyper important d'entendre ce mot. C'est un état. C'est-à-dire que c'est pas une heure après, je me marre ou je pense à autre chose. Non, on est constamment dans cet état. C'est donc une maladie. On est enfermé là-dedans, et donc là-dedans, on est vraiment une grosse perte de l'élan vital. C'est pas juste une petite perte de vitalité, c'est une perte de l'élan vital. On a envie d'être dans le noir, on n'a pas envie de se lever, tout est dur, c'est tout un combat. Perte de l'appétit, on dort mal, et puis une tristesse très sévère, en fait. On est vraiment dans le paroxysme de la notion de tristesse, on est constamment dans ce mal-être, on broie du noir, on voit tout en noir, on se dévalorise, c'est de l'auto-sabotage permanent. Voilà, c'est vraiment tout ça qui amène à l'état de dépression, qui est une maladie psychique à ce moment-là. Il faut vraiment se faire accompagner de manière plus poussée, et souvent par un psychiatre en plus de la thérapie, pour que ce soit une béquille suffisante pour faire ce travail en fonction de la problématique. Ça peut être des choses très très lointaines qui reviennent d'un coup avec un élément déclencheur. Ça peut être quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure, voilà, jusqu'à un trop-plein. Et puis par moment, un truc, c'est-à-dire, je me fais virer de mon boulot ou mon chéri me quitte. Ou une amie me déçoit d'un coup, une déception énorme, une trahison énorme, et là, voilà, ça nous plonge là-dedans et on n'arrive plus du tout à s'en sortir. Donc, il faut faire attention parce que là, c'est vraiment dangereux pour soi et il faut vraiment, vraiment consulter son généraliste dans un premier temps, mais c'est une maladie, en tout cas, à ce moment-là. Donc, on s'en sort, mais c'est une maladie. Il faut faire très attention à ne pas prendre d'alcool et de drogue parce que lorsqu'on est dans cet état-là, jamais en prendre, mais là c'est vraiment quelque chose qui peut accentuer l'état. Il faut faire très attention aussi de pas s'isoler. Et alors ça, c'est un des points piliers quand on commence à avoir cet état, et si on voit quelqu'un dans cet état, il ne faut pas s'isoler, c'est hyper important. Et puis l'inactivité, parce que plus on procrastine là-dessus, on bouge pas, on fait rien, plus on se renferme et tout. Donc rester actif un minimum et sortir et ouais, il faut faire quelque chose. Ça, c'est clair. Voilà la différence.
Merci Cindy, j'espère que du coup ça a pu être plus clair pour chacun de savoir la différence entre tristesse et dépression, parce que c'est super important. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous d'ailleurs, parce que c'est des informations très importantes. Alors, est-ce que Cindy, tu aurais des conseils pour se libérer de la tristesse ?
Alors, la tristesse, déjà, pour s'en libérer, la première chose à faire et qui est très importante, même si ça paraît évident, c'est de la nommer. C'est-à-dire, je suis triste, vraiment, je suis triste et j'accepte que là, avec cet événement, je suis triste. Ça, c'est hyper important, parce que souvent, on n'a pas envie, parce que c'est lié à une faiblesse, et donc on ne veut pas se montrer faible, et donc on ne veut pas le dire. Donc déjà, de dire, là, je suis triste et je ressens de la tristesse, c'est énorme. Évidemment, d'en parler, Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, un très bon ami avec qui on se confie, on se sent libre d'aller au bout d'un raisonnement, au bout de ce qu'on ressent. Ou sinon, bah, évidemment, un thérapeute, où là, on est en terrain neutre et on peut, sans jugement, vraiment se libérer. Mais il faut en parler, il faut qu'elle sorte, cette tristesse. Donc, la parole, c'est énorme. Et puis, évidemment, bah, le pleur, c'est quand même le ressenti qui est le plus lié à la tristesse. Et donc, pleurer, il faut oser pleurer, ça, c'est sûr. Et pourquoi aussi j'insiste là-dessus ? Parce que, tu sais, dans l'inconscient collectif, une femme, elle, bah, elle a le droit de pleurer, donc c'est une chouineuse, elle pleure, quoi, donc ça, c'est OK. Donc, le problème qu'on peut avoir très souvent, c'est qu'on a des femmes qui pleurent beaucoup, mais en fait, qui ne ressentent pas forcément tout le temps de la tristesse. Et donc, elles ont principalement de la colère, mais elles n'osent pas le dire et la montrer, donc elles pleurent. Ça, c'est un problème. Je m'adresse donc là aux femmes. Est-ce que je suis bien triste ? Si oui, on le travaille, mais peut-être que c'est de la colère. Et là, il y a un autre travail à faire. Pour les hommes, c'est l'inverse. Un homme a le droit d'être en colère, parce que comme un homme, c'est fort, il peut taper du poing et il est solide. Un homme, s'il est triste, c'est une chochotte, une mauviette. Dans l'inconscient collectif, évidemment, il y a beaucoup de générations qui sont construites là-dessus, et il y en a encore, hein, avec des paternels, des patriarches qui sont encore avec ces injonctions. Donc, si je pleure, eh ben, je suis une mauviette, je suis une poule mouillée, donc je suis faible, donc je vais me faire marcher dessus, donc c'est un problème, donc je pleure pas. Et par contre, je peux me mettre en colère. Donc, il y a des hommes qui sont des profondes tristesses, et puis qui sont hyper agressifs. Donc, là, je m'adresse aux hommes, la tristesse, c'est une émotion nécessaire qui est, si elle est, elle fait partie des quatre émotions piliers de base, bah c'est bien qu'elle est indispensable. C'est un peu comme les quatre pieds d'une chaise. On a la peur, la colère, la joie, la tristesse. Voilà. Donc, on ne peut pas être sur trois pieds, on est sur quatre pieds, on est stable. Et donc, par moment, on est dans l'une, par moment, on est dans l'autre, et ça bouge. Et les quatre sont acceptables. Donc, quand on est triste, on est triste. Si on pleure, on est fort. Exprimer la tristesse par le pleur, c'est un courage. C'est comme venir en thérapie. Avant, on se disait, oui, c'est pour les faibles, les malades et tout. Maintenant, on réalise que c'est une vraie force de faire face à ses blessures les plus profondes, de faire face à ses fragilités, et d'oser parler et d'oser entendre ce qu'on a à nous dire sur ces vérités-là. C'est vraiment courageux. Donc, c'est vrai que ça bouge énormément, mais voilà, ça fait écho à ça. La tristesse, c'est une émotion vraiment indispensable à notre équilibre. Et quand on la ressent, on l'accepte et on l'extériorise. Voilà. Ensuite, dans tout ce qui est comportemental, ça, c'est quelque chose que moi qui m'a servi, évidemment, c'est une injonction que j'ai reçue moi en tant qu'enfant et qui a tout son sens. Mais quand tu vas mal, tu sors. Ça, c'est indispensable. Alors, quand je dis tu sors, c'est voilà, en fonction de ce qu'on aime faire. C'est où on marche dans la nature, où on appelle un ami, une amie, et on dit voilà, faut qu'on prenne un verre, voilà. Où on fait une activité sportive, on fait un cours de danse, on fait une activité voilà, artistique, ce qu'on aime. On va même au cinéma, comme ça, on rentre dans un autre univers. On va manger avec quelqu'un, comme ça, on compense cette nourriture par une nourriture physique, mais qui est positive, qui nous fait du bien, on partage un bon moment. Mais quoi qu'il arrive, il faut sortir. Parce qu'en sortant, on rencontre des gens, on voit d'autres énergies. On va forcément penser à autre chose parce que notre cerveau va avoir des attentions ailleurs. Alors que quand on se replie sur soi et qu'on est à la maison, on nourrit ça, on se met ça en boucle. Du coup, ça prend de plus en plus d'espace dans notre tête. Et justement, c'est comme ça qu'on peut arriver à une dépression à force de nourrir. Donc, il faut vraiment s'ouvrir. S'ouvrir parce qu'on va sortir de nous, justement par les pleurs, l'écriture, les mots, mais sortir physiquement aussi. Vraiment, cette alliance-là est indispensable pour la notion de tristesse. Vraiment. Autant sur les autres, pas forcément, autant sur la tristesse, très important. Donc voilà, il faut sortir. Après, c'est le cahier de gratitude qu'on en a souvent parlé, pour nourrir justement le bien-être et donc essayer de faire obstacle au malheur, c'est-à-dire voilà, bah merci déjà pour ça, merci que d'avoir telle personne qui me rappelle, d'avoir telle chose, d'avoir telle chance physique ou telle chance dans ma famille ou telle chance, voilà, et de se le rappeler, de se le dire même régulièrement pour vraiment soi-même se construire un équilibre entre ok, j'ai des tristesses, je vais le travailler, j'en parle, j'assume, mais comme j'ai des trucs aussi qui vont bien, bah en fait finalement c'est pas tant la cata que ça, quoi. Et il faut se forcer à aussi valider les choses qui vont bien. Et c'est pas ce qu'on aurait tendance à faire au naturel. Donc ça, c'est très important. Après, tout ce qui est respiration, évidemment, ça c'est un classique, mais c'est aussi toujours important. Faire des respirations, de la méditation, ou voilà, la cohérence cardiaque, tout ça. Et dans ce cas-là, quand on est dans la tristesse, on est souvent dans des couleurs un petit peu tristes, qui souvent le bleu, le bleu-gris, des choses un peu comme ça, quand les gens leur demandent t'es dans quelle couleur. Et du coup, c'est important aussi de mettre une couleur qui va nous faire du bien. C'est pour ça que j'ai mis du jaune. C'est pour créer un équilibre entre ce que je dis et ce qu'on voit. C'est comment. Voilà, il ne faut pas être voilà, que à nourrir cette tristesse. Donc je l'accepte, je mets des mots, j'essaie de voir d'où elle vient, il faut que je tire ce fil s'il y a d'autres choses derrière. Mais pour autant, dans ces respirations, je vais essayer d'inspirer des choses qui me font du bien. Donc j'écris la gratitude, mais quand je respire, admettons, on peut respirer du jaune, du rose, quand on dit je vois la vie en rose, ou t'es en soleil, t'es jaune, orange, tout ça. On va essayer d'inspirer la couleur qui nous fait du bien et on souffle la tristesse et on va essayer de le faire jusqu'à ce qu'on sente que tout notre corps est rempli de cette nouvelle couleur. Ça envoie un message qui est aussi très important à notre corps et à notre cerveau pour affronter justement cette tristesse et se dire je suis capable de la travailler et d'aller au bout. Donc voilà, tout ce qui est respiration, un peu sophrologie, méditation, tout ça, mais ça marche vraiment, vraiment bien. Donc, et puis faire du sport, ça c'est clair, parce que ça libère des hormones, on a du bien-être. On bouge, on transpire, on évacue. Donc, le sport, évidemment, c'est top. Voilà. Mais la vie sociale, hyper important. La vie sociale, à ce moment-là. Il faut s'ouvrir aux gens un maximum, aux personnes qu'on aime ou aux activités qu'on a envie d'avoir. Voilà.
Super. Merci, merci Cindy, pour tous ces conseils. Alors, il y a déjà pas mal de questions, dont Sarah qui nous a demandé plusieurs fois de répondre à ces questions. Je t'ai vu, Sarah, ne t'inquiète pas. Alors Sarah qui n'est vraiment pas bien. Alors mon homme veut une relation libre. Il m'annonce ça après un an de relation. Je suis extrêmement déçue et triste. Mon cœur va exploser. Je pleure tout le temps.
Voilà, donc là on est clairement sur cette tristesse qui est liée à une déception. Ce que je disais, la déception de l'autre, c'est qu'on idéalisait une relation exclusive, comme si je suis donc du coup suffisante pour l'autre, pour qu'il soit épanoui. Et apparemment non. Donc ça vient toucher directement son ego, son estime personnelle, et donc forcément, ben, elle la fragilise et elle se renferme là-dedans. Ce que je comprends totalement, c'est dur d'entendre ça et de recevoir ça. Il y a beaucoup de couples qui sont dans le fonctionnement libre, mais souvent c'est un acte et qui est établi d'avance. Enfin, on en parle dès le début et ça se construit comme ça. Donc là, il peut y avoir vraiment une déception envers lui, un mal-être envers soi, voilà, sur cette estime et le fait de ne pas se sentir assez. Ça, c'est assez compliqué dans les blessures. Et puis, un rêve un petit peu qui s'écroule. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que généralement, une personne qui demande ça, c'est pas qu'on n'est pas assez pour l'autre, c'est qu'une personne a plus de besoins ou a besoin de se prouver plus de choses par rapport aussi à ses blessures. Ce besoin de se dire « je suis libre, je peux voilà ». Et il y a même des gens d'ailleurs, quand c'est autorisé, il y a eu un film d'ailleurs là-dessus, mais quand c'est autorisé, ils vont beaucoup moins que le fait que ce soit interdit. Donc par moment, de savoir qu'on peut y aller, finalement, on n'a plus envie. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de contradiction. Mais évidemment, cette tristesse est très compliquée. C'est pour ça que là, il faut qu'elle se fasse aider pour en parler. Il faut qu'elle revienne sur elle, sur ses besoins fondamentaux à elle, ses valeurs à elle, se les poser. Soit c'est une ouverture d'esprit qu'elle va être capable de prendre et de développer avec lui. Et voilà, si vraiment ça lui amène trop de souffrance et qu'elle n'est pas du tout formatée comme ça et qu'elle ne peut pas concevoir le couple comme ça, il va falloir l'assumer, se le dire pour après lui dire. Et dans ce cas-là, c'est juste que c'est plus la bonne personne. Mais d'un côté, ce qui est bien, c'est qu'il en ait parlé parce qu'il y a des gens qui le font par derrière. Et il y a de toute façon, quoi qu'il arrive, un sentiment de trahison énorme quand on le découvre ou quand on réalise certaines choses. Donc, c'est d'un côté bien qu'il ait osé en parler et d'un côté je comprends à quel point c'est douloureux de l'avoir reçu, mais il faut qu'elle le travaille et qu'elle prenne des vrais temps pour elle pour travailler ça c'est très important. Il ne faut pas qu'elle soit centrée que par rapport à lui.
Alors on va regarder une autre question ou un autre témoignage. Alors il y a Andrea qui nous dit: comment se permettre de vivre la tristesse? Comme quoi c'est pas évident, hein. Peut-on avoir des trucs pour pleurer, pour évacuer?
Oui, je pense que ce qui peut aider dans un premier temps, c'est la musique. La musique, ça dégage des émotions fortes. Hein, c'est très fort le pouvoir de la musique. Donc, de mettre des musiques qui nous parlent par rapport à la thématique qui est notre tristesse. Voilà, un chanteur qui dégage pour nous une émotion forte, un thème, il y a des chansons précises sur le thème qui est notre tristesse, et donc de les écouter. Pour s'imprégner et s'autoriser à ce que ça sorte. Ça, c'est important. Aller dans la musique. Je pense que aussi bien, c'est important évidemment de mettre des musiques qui galvanisent, qui nous mettent dans la joie, mais je pense que quand il faut que ça sorte, allons dans la musique qui nous fait sortir ça. Et d'ailleurs, dans les films, si vous coupez la musique, personne pleure. Hein. C'est-à-dire que c'est pas que l'image qui nous rend triste, c'est la musique qui met derrière. C'est énorme. Donc, allez chercher la musique qui correspond à cette tristesse et écoutez-la autant qu'il faut. Tant que ça sort, continue de la mettre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à ce moment-là. Et c'est des cycles. Si ça a besoin de revenir le soir, le lendemain, on remet la musique et on repart à sortir cette tristesse.
D'accord. Merci, merci Cindy. Alors d'ailleurs, j'ai vu une question en début qui nous demandait si la thyroïde, ça pouvait être lié à la tristesse.
Ah ouais, bah la thyroïde, c'est un bouleversement hormonal. Donc évidemment, la thyroïde, on peut avoir des gros coups de blues à cause de ça, comme la ménopause, comme avant les règles, comme après avoir eu un bébé. Enfin, tous ces dérèglements-là amènent. On peut avoir vraiment, vraiment un gros ressenti de tristesse. Donc effectivement, c'est pour ça qu'après là, on est plus sur des médicaments pour essayer de réguler tout ça hormonalement. Mais effectivement, oui, ça peut l'être. D'ailleurs, c'est souvent des questions qu'on pose hein, avant pour connaître la personne si là-dessus tout est en règle ou pas. Parce que sinon, effectivement, on sait que c'est très, très influencé par ça.
D'accord. Merci. Alors, j'avais une question aussi. Alors. Une personne qui nous dit « Comment réussir à communiquer avec mon entourage alors que je suis très mal, je n'y arrive plus ?»
Il faut oser demander de l'aide, c'est-à-dire de demander que quelqu'un nous tende la main. De juste dire ou par message, de dire « Là, ça ne va pas, j'ai besoin d'aide » ou « J'ai besoin qu'on me propose des choses, j'ai besoin qu'on me tire vers le haut. » Il faut le dire en fait. C'est pas d'étaler là tout son mal-être, mais il faut au moins dire je vais pas bien. C'est pas une tare, c'est pas une honte, on n'est pas un boulet à ce moment-là, on est humain. À d'autres moments, ça sera peut-être d'autres personnes de son entourage qui oseront lui dire, mais là c'est elle est pas bien, il faut le dire. J'ai des personnes qui vivent évidemment des choses vraiment vraiment très dures. Il y a des étapes de vie par moments très très compliquées. On n'a pas forcément envie de déranger, on n'a pas envie de se montrer faible. Donc encore une fois, c'est pour ça que je reviens sur la notion du repli sur soi qu'il faut vraiment essayer de combattre un maximum. Donc même si on ne s'autorise pas à dire vraiment le pourquoi, et même par moments on ne sait pas à fond vraiment pourquoi on est mal, mais juste de dire à la personne par message, je vais mal, j'ai besoin qu'on me sorte de là, ou j'ai besoin qu'on me propose un truc, une sortie, hein, quelque chose à faire et tout. Il faut oser le dire. Ça, c'est clair. C'est indispensable. Ça fait vraiment partie du respect de soi. Et on ne peut pas réussir à tout gérer seul, en fait. On n'est pas fait pour ça. On est fait pour être une sorte de famille. Chacun est complémentaire. Donc, il y a des moments, il y en a un qui va être sauveur à ce moment-là, qui va aider, qui va proposer et qui va nous tirer un peu de là. Donc, il faut en parler. Ça, c'est évident. Ce n'est pas une honte. Donc, à partir de là, c'est un fait. Et ben, on le dit. Voilà.
Ok, merci, merci Cindy. On a Sarah qui nous a posé, une autre Sarah qui nous a posé une question. Je passe constamment par des moments de tristesse et de joie en alternance. Est-ce que c'est normal?
En tout cas, ça veut dire qu'elle n'est pas en dépression, c'est déjà bien. y a aussi, c'est vrai que l'aspect hormonal peut être là. Après, ça dépend de sa structure de personnalité. Dans les structures, ce qu'on appelle les structures hystériques. Alors, c'est pas l'hystérie malade, comme vous pouvez imaginer, freudienne, fou. C'est une structure qui est une structure assez extravertie, où on peut très vite passer d'une émotion à une autre, qui est un peu comme les enfants. Un enfant, tu sais, il peut vraiment être en colère, deux secondes après rigoler, pleurer, et puis après être en colère, et ainsi de suite. Et on se dit, c'est fou, il switch très vite. Donc, en fait, il y a des structures de personnalité qui amènent cette facilité-là, avec un aspect assez extraverti, et on peut très vite basculer d'une émotion à une autre. Donc après, je ne connais pas cette personne, mais je pense que c'est lié vraiment avec sa structure, et il y a des personnes où c'est vachement plus fluide de circuler dans ses émotions, en tout cas.
Intéressant. Merci, merci Cindy. J'étais en train de regarder les questions parce qu'on en a pas mal. Et il y avait Rose qui avait l'air très, très intéressée d'avoir une réponse. Rose qui nous dit « Mon homme apprend que j'ai été en couple avec des amis à lui dans le passé et ne veut plus me parler. Je me sens très triste et je ne m'en sors plus. Que faire ?»
Bah, en fait, là, il faut un petit peu retracer tout ça. Il faut revoir sur la notion des valeurs, il faut revoir le contexte, il faut remettre toutes ces choses dans le contexte. Et je pense que pour elle, ce qui est important, c'est de retracer tout l'historique. C'est vrai que là, pour le coup, la thérapie, même si ce n'est pas beaucoup de séances, va aider. Pourquoi ? Parce que ça permet à tout dérouler, parce que la personne ne nous connaît pas, et donc on est obligé de reprendre dès le début. Et le fait de retracer tout ça à haute voix donne un sens. On a des compréhensions qui sortent de ça. Et après, en fonction de ça, on a des arguments qui sont beaucoup plus justes et posés et constructifs pour parler avec l'autre. Donc, encore une fois, il y a tellement de scénarios possibles sur le pourquoi je ne l'ai pas dit et pourquoi j'étais avec telle personne avant et tout, que là, je ne peux pas y répondre précisément. Mais en tout cas, il faut s'autoriser à tout retracer, à remettre les choses dans ce contexte à chaque fois, et puis assumer. Si je suis OK avec ça, et ben je l'assume et donc j'en parle. Si l'autre a aussi un problème, c'est qu'il a aussi peut-être lui d'autres blessures dans son passé qui là font surface à cause de cette annonce. C'est pour ça qu'il y a plein de choses à voir. Et là, c'est vraiment du cas par cas. Mais le fait de retracer tout permet vraiment d'avoir des réponses et d'y voir plus clair dans ces moments-là.
D'accord. J'espère que ça permettra déjà d'avoir un début de réponse pour Rose. Alors, on va faire une dernière question, Cindy. Ouais. Alors, c'est Valérie qui nous dit « Comment montrer à une personne triste qu'elle peut compter sur nous ?» On a vu cette question d'ailleurs plusieurs fois lors du live.
Eh bien, déjà, il faut le dire et il faut rassurer cette personne. Si une personne est triste et triste d'être triste, ou en tout cas apeurée d'être triste, il faut la réconforter. C'est un peu comme un animal blessé. Il faut y aller doucement, en douceur, et donc de vraiment mettre des mots très rassurants, très bienveillants, en disant « tu as le droit d'être triste, ça arrive à tout le monde », de donner peut-être même des exemples personnels pour montrer que nous aussi, on est passé par des choses douloureuses. De dire voilà, autorise-toi à recevoir mon aide et je ne me force pas, ça me fait plaisir de t'aider à ce moment-là, c'est normal, et de dédramatiser. C'est-à-dire qu'il faut considérer la tristesse, en parler et ne pas la juger, mais il ne faut pas dramatiser. La tristesse est une émotion primaire. Si elle est primaire, c'est qu'elle est obligatoire. Et donc, c'est normal de la ressentir. Donc, il faut toujours revenir sur ça et puis, dire à haute voix ce que l'autre pourrait penser. Si on pense qu'il se sent gêné, qu'on vienne l'aider, de dire « mais ne sois pas gêné. Voilà. Si je le fais, c'est que je peux. Je suis disposée à le faire. Je ne le ferai pas sinon. » Donc, il faut vraiment, vraiment être dans cette bienveillance et dire un peu à voix haute ce qu'on peut imaginer que l'autre pense tout bas.
Merci. Merci beaucoup, Cindy, pour toutes les réponses que tu as pu nous donner aujourd'hui. D'ailleurs, tu as déjà les remerciements des personnes pour avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions des utilisateurs et utilisatrices. Et tous ces conseils que tu as pu nous donner aussi en première partie. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter sur la tristesse, sur ton cabinet.
Non, en tout cas, écoute, sur la tristesse, c'est comme toutes les autres émotions. Elles sont souvent liées. On peut être triste et après, on peut être en colère d'être triste et tout ça. Enfin, je pense que dans ces émotions, il faut surtout juste comprendre qu'on les a depuis notre naissance, qu'elles font partie vraiment de notre équilibre, que quand on est enfant, on n'a pas de filtre, donc elles sortent spontanément, qu'en évoluant, on s'autorise plus ou moins les émotions en fonction de notre vie sociale, en fonction des injonctions qu'on a eues, en fonction de nos croyances. Donc, il faut revenir un peu sur tout ça et voir que quand ça bloque, il y a d'autres choses à travailler autour, se l'autoriser parce que c'est tellement libérateur de rassembler ses pièces du puzzle et de s'autoriser toute émotion. Ça, c'est indispensable. Et en tout cas, il y en a aucune qui est honteuse. Cette grosse croyance de la conscience collective qui est « sois fort, ne pleure pas », il faut vraiment, vraiment la travailler. C'est hyper courageux de pleurer. Toute émotion qui est exprimée est courageuse. Donc, moi, je voudrais vraiment que les gens puissent garder ça en tête. L'accompagnement aussi, même s'il est court sur une problématique très précise, il faut se l'autoriser aussi, c'est pas une honte. Il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça et il faut s'autoriser à frapper aux portes, très important. Et puis de sortir, il faut sortir les émotions, mais il faut sortir physiquement, il faut s'ouvrir. Ça, je le répéterai jamais assez. Et si on a besoin de quelqu'un pour nous donner ce petit coup aux fesses, on le demande et la personne va venir frapper à notre porte, va nous donner rendez-vous, mais il faut sortir. Hyper important. Voilà ce que je voudrais dire.
Merci beaucoup, Cindy. Je pense que là, tout le monde te remercie. Ils ont envoyé plein de petits cœurs.
Et c'est gentil. En tout cas, on en a parlé toujours de manière assez large. Mais voilà, j'espère que ça va donner en tout cas l'élan d'aller un petit peu plus loin, de s'autoriser et de dédramatiser sur cette émotion. Voilà. Après, en ce qui concerne la dépression, là, c'est un médecin qu'il faut voir. On peut passer par là, on en sort. Donc, il ne faut pas en plus avoir peur de la dépression. C'est un état qui peut arriver. Mais il y a des solutions.
Merci beaucoup, Cindy. Je te souhaite une belle journée et merci encore.
Merci, Charlotte.
Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.